Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcasts pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Riyad Mouhib, cofondateur de l'application Footsider, le LinkedIn du football. Avec lui, nous avons évoqué la genèse du projet de l'application Footsider, le déroulement d'une journée de détection et les conseils offerts aux jeunes footballeurs. Nous sommes également revenus sur les essais décrochés dans plusieurs clubs professionnels par plusieurs participants aux journées de détection, leur retour d'expérience avec notamment un invité supplémentaire dans ce podcast, ainsi que les grandes lignes du projet. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Riyad Mouhib. Bonjour Riyad Mouhib et bienvenue dans le podcast Prolongation.
Bonjour Johan.
Alors dans ce podcast, Riyad, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué? Ça peut être par un résultat brut, ça peut être par une émotion particulière, ça peut être enfant, adolescent, adulte, au stade, devant la télé. Les possibilités sont assez nombreuses et tu peux même en donner deux si tu en as deux qui t'ont plus marqué que d'autres.
Eh bien, effectivement, en fait, il y en a plusieurs, mais si je dois vraiment m'arrêter sur deux, pour moi, il y a eu quand Ronaldo, donc R9 Fenomeno, est arrivé à Barcelone.
Okay.
Pour moi, ça a été vraiment, j'ai été vraiment surpris et étonné de voir un robot. Donc, pour moi, c'était vraiment une machine qui était au-dessus de tout le monde, au niveau de sa technique, au niveau de sa vitesse, au niveau, vraiment au niveau de toutes ses qualités footballistiques. J'ai trouvé que vraiment à cette époque-là, il était au-dessus vraiment de tout le monde. Donc pour moi, quand il est arrivé à Barcelone, je me rappelle très bien, il est arrivé, je crois, son premier match, c'était la Supercoupe. Et il est arrivé, il a fait son coup du foulard, il a dribblé, il avait tout fait justement sur ce match-là. Donc ça m'avait donné envie justement de suivre Barcelone par la suite. Et ensuite, il y a eu aussi Ronaldinho, quand il est arrivé au PSG. J'étais encore étudiant à l'époque et j'avais vu ses premiers matchs. Au café, et grâce ou à cause de lui, j'ai dû prendre l'abonnement Canal+ pour justement pouvoir suivre tous ces matchs.
Donc, voilà. Donc il y a une grosse influence brésilienne quand même.
Oui, complètement. Et parce que voilà, c'est la magie, c'est les choses faites à l'instinct qui ne sont pas, j'allais dire, en limite, on ne les apprend pas en centre de formation, on les apprend dans la rue. Et c'est ce football-là que j'aime en fait.
Est-ce que tu as encore la même magie aujourd'hui avec les joueurs brésiliens?
J'allais dire, même dans le football mondial, il y en a beaucoup moins. Pour moi, Neymar était encore dans cet état d'esprit-là, peu importe ce que disent les gens et peut-être avec toutes les blessures qu'il a eues, mais voilà, c'est encore un des magiciens effectivement où on ne s'attend pas aux gestes qu'il peut faire sur un match, sur une action. Donc effectivement, il y en a encore quelques-uns, mais si je dois en retenir un aujourd'hui, c'est Neymar.
C'est marrant parce que la disparition un peu progressive de ce type de profil est souvent à mettre, à juxtaposer avec la disparition du football de rue. Alors, pas disparition totale, mais il y en a de moins en moins pour en avoir parlé avec des gens, alors en Europe principalement, mais même en Italie, aux Pays-Bas, qui étaient des pays où on jouait dans la rue toute l'année, avant même de faire ses devoirs, etc., sur des playgrounds, sur des terrains vagues, dans les champs, sur juste un bout de bitume dans les rues, etc., devant l'église en Italie. Ça se perd clairement parce qu'il y a aussi d'autres activités. Les jeunes ne sont pas forcément attirés par les mêmes choses qu'il y a 10, 15, 20 ans, comme nous, on pouvait l'être d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on note quand même cette disparition quand même progressive des très gros dribbleurs. Moi, j'aime dire que, pour reprendre un Brésilien, tu vois, que moi, j'aime beaucoup et qui est passé par un club que j'ai beaucoup suivi, c'est Anthony, qui est passé par l'Ajax. Ouais. Et en fait, lui, tu sais, il y a des gens qui se moquaient un peu de ses gestes techniques superflus, qui ne servaient pas à grand-chose, l'espèce de roulette là, qu'il fait sur lui-même, etc. Bien sûr que dans l'esprit, ça ne sert pas à grand-chose. Mais en fait, c'est aussi ce qu'on cherche avec ce type de profil-là. Et c'est ce que j'aime sur ce type de profil, c'est qu'ils ne sont plus très nombreux et ils ajoutent une part d'imprévisibilité dans le football, qui aujourd'hui est finalement assez mécanique parce qu'il est très pointu, les entraîneurs veulent tout prévoir en fait. Et ce type de profil-là est assez extraordinaire à suivre en tant que simple amateur de foot.
Entièrement d'accord avec toi. Aujourd'hui, on peut dire même que le football, même en regardant des matchs, on sait déjà qui vont faire la passe. C'est tellement stéréotypé, c'est tellement, c'est tous les mêmes schémas, entre guillemets, et les joueurs appliquent à la lettre ce qu'on va leur dire, notamment, par exemple, avec Pep Guardiola, qu'on sait. On sait que ça va coulisser de droite à gauche, on sait qu'à un moment, voilà, ça va faire telle et telle passe, alors que ces joueurs-là, ils sont totalement imprévisibles. Alors, depuis des années, c'est un peu gommé, effectivement, chez les attaquants. Et j'espère que ça ne va pas être gommé. Ça commence aussi avec les milieux de terrain, où on voit moins de magiciens au milieu de terrain, on voit moins des passes, imprévisibles vers l'avant. Et effectivement, c'est comme tu disais, c'est un peu le football de rue aussi qui disparaît. À notre époque, on avait quoi ? On n'avait que la télé et la rue. Aujourd'hui, il y a la télé, il y a les réseaux, il y a le téléphone, il y a les consoles, etc. Donc, les jeunes ont beaucoup plus le choix. Et peut-être que le foot de rue passe en dernier aujourd'hui.
Quel était ton rapport justement enfant au football ? Est-ce que tu y jouais juste avec tes potes ? Est-ce que c'était en club ? Est-ce que tu étais le genre à ne pas rater un match à la télé ? Il y en avait beaucoup moins à la télé à l'époque, donc c'était plus facile de ne pas trop les rater, entre guillemets. Est-ce que tu étais du genre à aimer avoir les revues de foot, à avoir les posters, à avoir les vignettes Panini, etc. ou pas du tout ?
En fait, moi, je jouais au foot tous les jours. Tous les jours, on jouait dans la rue, tous les jours. J'ai grandi au Maroc. Donc, c'était encore un autre football, c'était encore une autre ambiance. Et j'étais en centre de formation là-bas. Et à l'époque, centre de formation, on rentrait chez nous le soir. Et donc, le soir, je jouais encore. Donc, c'était vraiment tous les jours, 7 jours sur 7, c'était le football. On mangeait football. Les parents, ils n'en pouvaient plus parce qu'on déchirait la paire de baskets au bout de 2 mois, 3 mois. On déchirait le pantalon, le t-shirt. On se faisait nos coupes du monde dans la rue. On mettait 2 pierres pour les buts. 2 pierres de l'autre côté pour les buts. On refaisait tous les matchs qu'on voyait le week-end, on les refaisait dans la semaine. Et bien sûr, après, on allait au stade. Et le stade au Maroc, c'était à Casablanca. C'était des stades à 80 000 places.
Donc, le Wydad ou le Raja ?
Moi, j'ai joué au Wydad, mais j'étais Raja, oui. Donc
okay. C'était un peu contradictoire. D'accord.
C'était un peu contradictoire, mais effectivement, j'étais en centre au Wydad et j'étais pour le Raja. Donc voilà, et tout ce qu'on voyait, les gestes techniques qu'il y avait à cette époque-là, moi, je me rappelle de matchs où le Raja faisait match nul sur des matchs, mais tellement ça jouait bien et tellement il y avait, j'allais dire, du spectacle que les gens, ils applaudissaient. Peu importe s'ils avaient gagné, en fait. Les gens applaudissaient, étaient hyper contents d'avoir vu un beau spectacle, en fait. Un petit pont, ça levait tout le stade. Donc c'est vrai que c'était vraiment un autre football.
Alors aujourd'hui, tu es à la tête, entre guillemets, enfin, où tu t'occupes de Footsider. Alors Footsider, c'est quoi ? Je l'ai déjà dit un petit peu en introduction, mais le meilleur moyen de le résumer, c'est souvent par une formule, quand on parle de concept. Et là, la formule étant le LinkedIn du football, c'est-à-dire en gros une plateforme où les joueurs peuvent se mettre en relation avec des clubs amateurs et professionnels. Le LinkedIn, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu la même chose. Vous avez un profil sur LinkedIn professionnel et puis vous pouvez regarder s'il y a des postes ouverts à droite et à gauche, qui recrutent, vous pouvez vous faire chasser par des recruteurs, vous pouvez développer des relations professionnelles avec X ou Y personnes. Ben, c'est ce que vous faites au niveau du football. Comment t'es venu un peu cette idée et comment t'as entrepris cette démarche-là ?
Alors, la genèse de l'idée, donc je l'ai pas eu seul. Donc effectivement, c'était avec Malik Chekaou et Ilyes Brahimi. Donc on était tous les trois en train de discuter. Et il y a 4 ans, en 2019, on a créé d'abord une association qui s'appelle l'Académie Seconde Chance. Donc, en fait, c'est une association qui existe toujours où une fois par mois, on organisait justement des détections pour des clubs amateurs, des clubs, c'est-à-dire semi-professionnels et même professionnels jusqu'à aujourd'hui, où en fait, on ramenait tous les jeunes non conservés des centres de formation et on ramenait les jeunes talents du milieu amateur qui n'ont jamais pu avoir accès au haut niveau. Donc, depuis 2019, on existe. On a fait ça avec nos propres deniers. Et Yacine Brahimi, donc le frère de Lies, qui a joué à Porto.
Bien sûr.
Voilà, toute la carrière qu'il a eue et qui est maintenant au Qatar. Lui, il nous a aidés justement parce qu'il a tout de suite cru justement en ce projet. Et Covid arrive, malheureusement. Donc, plus de matchs, plus de détections. Et les joueurs nous appelaient. Voilà, j'aimerais bien trouver un club. Les clubs nous appelaient, on cherche des joueurs. Et c'est là où on s'est dit, peut-être que c'est le moment de digitaliser le concept. Et donc, on a pu pendant un an réfléchir, je veux dire, à la conception de l'application. Et en fait, c'est très, très simple. C'est un peu un principe de matching entre les joueurs et les clubs. Donc, c'est un mix entre le LinkedIn, j'allais dire, et le Tinder, mais du football. Donc, effectivement, on met en relation les joueurs et les clubs par un principe de matching. Et on a eu la chance de rencontrer Roberto, donc le frère de Ronaldinho. On nous a dit, voilà, vous avez 30 minutes avec lui pour lui parler de votre projet, de voir si Ronaldinho peut être ambassadeur. Et en fin de compte, on a passé 2h30 avec Roberto et il nous a dit, mais mon frère, sur ce projet-là, il ne voudra jamais être ambassadeur. Il voudra être associé, investisseur comme Yacine Brahimi. Parce qu'en fait, ça leur a parlé tout de suite. Chaque joueur pro a eu dans son entourage des copains qui ne sont pas passés et qui n'ont pas eu cette seconde chance justement grâce à une application, à un organisme qui aurait pu les aider.
Parce que l'écrémage, il faut le rappeler, hein, l'écrémage dans les centres de formation, alors déjà, il faut y rentrer en centre de formation et ensuite, l'écrémage est extrêmement important.
Oui, alors les infos qu'on a, c'est qu'il y a 90-95% de taux d'échec à la sortie.
Ouais.
Donc, il y a beaucoup de monde pour très, très peu d'élus. Et donc, on a développé cette app. On l'a lancée en janvier 2023. Le lancement officiel. Aujourd'hui, on a un peu plus de 80 000 joueurs. Et principalement, aujourd'hui, l'application, elle met en relation les joueurs et les clubs amateurs. Donc, c'est la base. C'est vraiment l'amateur. Donc, c'est 90%, de nos valeurs, entre guillemets, parce que le but, c'est aussi de contribuer au développement du football amateur. Mais bien sûr, il y a cette passerelle-là aussi des jeunes joueurs amateurs qui veulent jouer en U17 NAS, U19 NAS et qui veulent aussi essayer peut-être d'intégrer des clubs pro.
D'un point de vue didactique, pour les jeunes joueurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore l'application, qu'est-ce que je dois faire si je suis un jeune joueur et que je m'inscris sur Footsider? Quels éléments je dois mettre en avant pour, ou utiliser en tout cas, pour donner envie au club, amateur ou professionnel, de me regarder?
Alors, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est un joueur qui joue en R1 ou en district, bref, peu importe qui joue dans le milieu amateur.
Ouais.
Il veut changer de ville parce qu'il est étudiant, parce qu'il a trouvé un autre travail, ou même dans sa propre ville, il veut changer de club. En fait, on l'invite à s'inscrire sur l'application. Il va créer en fait son CV footballistique.
Ouais.
Donc, nom, prénom, son poids, sa taille, son pied fort, les trois caractéristiques qui peuvent le mettre en avant. Et bien sûr, il peut mettre des photos et des vidéos. Donc
okay.
Ça, c'est la base. Et effectivement, il y a des notifications qui sont envoyées donc au club. Donc aujourd'hui, on a à peu près en tout, avec les clubs amateurs professionnels, on a à peu près 1000 clubs, en sachant qu'il y a 15 000 clubs amateurs. Et l'objectif, en fait, c'est que les clubs reçoivent les notifications des joueurs et bien sûr, ils filtrent. Ils sont OK, pas OK pour tel ou tel profil. Donc, le joueur qui habite Toulouse et qui vient sur Bordeaux, il ne connaît pas les clubs. Grâce à l'application, déjà, il va voir tous les clubs inscrits de la région bordelaise et il peut justement postuler. Et le contraire aussi. Donc, les clubs émettent des opportunités, donc des annonces. Donc, nous, on appelle ça des opportunités. Je cherche un attaquant, je cherche un milieu. Et tous les joueurs de l'app reçoivent, en fait, ces notifications.
Okay.
Et peuvent postuler. Donc ça, c'est le premier axe. Et ensuite, il y a l'axe aussi de joueurs amateurs ou de joueurs qui ont été non conservés dans les centres de formation, qui peuvent aussi s'inscrire et postuler à des opportunités, donc des offres de clubs pro, de clubs semi-pro. Donc, on peut appeler semi-pro des nationales, N3,
ouais,
N2 nationales,
ouais.
Ligue 1, Ligue 2. Et on a aussi maintenant des clubs étrangers, espagnols, portugais, italiens.
Et donc maintenant, si je suis dans la peau d'un club, là, tu as expliqué que le joueur pouvait mettre des photos et des vidéos. C'est évidemment ce qui va aussi donner un premier aperçu au club. Parce qu'une fiche sans... C'est un peu comme sur LinkedIn. Hein, si tu ne mets pas des exemples de ton travail, c'est un peu plus difficile. Là, c'est pareil. Si tu ne mets pas de vidéo, c'est un peu plus vide et ça ne donne pas un vrai aperçu de ce que tu es capable de faire. Si tu es un club, aujourd'hui, comment tu t'inscris? Est-ce qu'ils doivent vous contacter? Est-ce qu'ils vous expliquent la démarche? Est-ce que... tu disais, ils reçoivent une notification quand il y a des joueurs qui s'inscrivent, mais comment pour eux faciliter le fait, parce que tu disais, il y a combien d'utilisateurs aujourd'hui sur Footsider en tant que joueur?
Il y en a un peu plus de 80 000, je crois que c'est 81 700 et quelques, j'ai vu ce matin justement.
D'accord. Alors, comment eux les aider aussi à filtrer? Parce que quand tu as 81 000 personnes, 82 000, allez, on va dire quasiment, ouais. Comment tu fais pour filtrer parmi toutes ces données?
Alors, le club, effectivement, il s'inscrit gratuitement. Il peut donner, bien sûr, l'accès à tous ses coachs, parce qu'en fin de compte, ceux qui vont utiliser l'application dans le club, c'est les coachs. Et les coachs, il y a une sorte de, comment on appelle ça, de profilage. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire, moi, je cherche un attaquant sur la région toulousaine qui a entre 17 et 19 ans, ou son pied fort et c'est le pied droit, par exemple. Et en fait, en faisant ce profilage-là, donc c'est comme une sorte d'algorithme, ben, quand il valide, il a tous les joueurs qui ont entre 16, 17, 18 ans, qui habitent sur la région toulousaine et qui sont attaquants et qui jouent du pied droit, entre guillemets. On leur facilite un peu, j'allais dire, le fait de filtrer et d'avoir, entre guillemets, les meilleurs profils.
Un des axes qui est important, je trouve, c'est ne pas rester dans le digital, mais aussi être présent dans l'IRL, comme on dit, donc dans la vraie vie, comme on l'appelle. Vous avez notamment ces journées de détection, ces scouting days, qui sont pour moi très intéressants. Si je suis un club, comment je suis mis au courant de l'arrivée de détection, de scouting day? Comment je demande à participer? Est-ce qu'il faut le demander ou pas du tout? Est-ce que c'est très ouvert ou un peu plus fermé?
Alors, c'est une bonne question, Joël, parce qu'effectivement, en amont, dans nos profilages joueurs, on ne demande pas les statistiques. Combien de buts marqués, combien de passes décisives? Parce qu'on sait que tout ça, le joueur peut mettre l'information qu'il veut, elle ne sera jamais contrôlée. Donc, en fin de compte, on demande les informations les plus basiques et les plus simples, entre guillemets, les plus pertinentes. Mais la vérité, elle va se faire sur le terrain. Elle va se faire sur le terrain et il y a plusieurs options. Donc, par exemple, mardi dernier, on a organisé, il y a un club ici sur Bordeaux, le SAM, qui nous a demandé un match amical. Et donc, nous, on a émis l'opportunité donc, aux joueurs. On a dit qu'il y a un club sur la région bordelaise qui cherche un match amical pour son équipe, par exemple, senior. On l'a émis parce que voilà, c'était à 3-4 jours, j'allais dire, en amont. Et nous, en fait, on a filtré pour eux. Donc, il y a cet accompagnement aussi vis-à-vis des clubs où nous, on a ramené à peu près 17 joueurs ce soir-là. Donc là, c'était un match amical que le club voulait. Après, le club peut demander des essais rapidement pour 1, 2, 3 joueurs. Et ensuite, il y a effectivement le principe de scouting day. Donc le scouting day, ça, c'est des événements qu'on organise 2, 3 fois dans l'année. Je vais prendre des exemples qu'on a déjà effectués. Donc on a fait 2 scouting day en février et en juin l'année dernière, enfin cette année, pardon, 2023. C'était pour les clubs pro. Donc on a eu à peu près 45 clubs professionnels qui sont venus. Et avant de ramener les 100 joueurs à peu près qu'on a invités sur ces scouting days, on a fait des présélections. Donc, on a vu des joueurs sur différentes villes. On a vu à peu près, parce qu'on en avait à peu près 200 par ville, on en a vu à peu près 1400, 1500 joueurs. Voilà, donc c'est un travail assez lourd, mais on ne veut pas y déroger parce que pour nous, c'est très, très important de voir d'abord les joueurs et d'apporter, entre guillemets, les meilleurs profils. Et en fonctionnant comme ça, bah on a été très contents parce que sur les 2 scouting days qu'on a vus, il y a 2 joueurs qui ont signé en club pro. Donc sur 100 joueurs, il y a eu 8-9 essais, mais il y en a eu 2 qui ont signé. Un qui a signé au PFC et un qui a signé à Bologne, donc en Serie A. Et c'est des joueurs qui viennent du milieu amateur. Donc cette passerelle-là, elle a vraiment fonctionné. Et là, fin octobre, début novembre, on va organiser un gros scouting day pour les clubs amateurs. Donc ça aussi, ça va être très, très important. Et on va commencer par le faire sur la région toulousaine. Et ensuite, on le fera comme ça sur différentes régions en France pour les clubs amateurs, en sachant qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont non licenciés, qui aimeraient justement intégrer des clubs, mais qui n'ont pas, j'allais dire, le réseau ou la manière de faire. Donc nous, en fait, sur ces scouting days, on organise des présélections en amont et on ramène les meilleurs profils.
Justement, comment ça se passe une journée de détection? Parce que il y a le fait de dire aux joueurs de venir. Mais ensuite, quel type d'opposition? Comment vous constituez les équipes? Est-ce que vous réussissez à avoir à tous les postes? Parce que l'idée du joueur qui s'inscrit et qui veut faire cette journée de détection, c'est aussi de se dire, si je suis latéral droit, ne pas me faire jouer au milieu de terrain parce qu'il manque un milieu de terrain, parce que là, mes qualités ne se verront pas forcément. Comment réussir à avoir le même nombre à peu près de joueurs par poste? Comment sont accompagnés les joueurs aussi? Est-ce qu'il y a un coach d'équipe qui leur présente ce qu'ils peuvent faire, comment le faire, etc.? Est-ce qu'il y a un staff? Je ne sais pas. Comment c'est organisé?
On se met des nœuds dans la tête par rapport à cette problématique-là. Et on a Guillaume et Samy, donc ils sont responsables club et responsables joueurs. Et effectivement, sur les présélections, donc ils essayent d'homogénéiser, j'allais dire, les effectifs. Et on essaye de ramener par scouting day. Donc, par exemple, sur un scouting day, on va faire par catégorie. Donc, on va ramener, okay, en fonction des demandes des clubs, on va ramener, par exemple, les 22-25 ans le matin à 9h. Donc, on en ramène à peu près 4 équipes. Donc, ça fait à peu près 40-50 joueurs. 3 heures après, on ramène les 18-22 ans. Et ensuite, par exemple, on ramène les 15-18 ans. Voilà, okay, donc en fait, c'est des catégories. Donc, déjà, par rapport aux catégories d'âge. Et après, effectivement, vu qu'il y a 4 équipes, donc ça fait, on va dire, 4 joueurs par poste. Et ensuite, l'écrémage, il se fait justement par les recruteurs qui sont là, donc de club, qui disent, ben voilà, nous, on préfère lui ou lui. Ou des fois même, les recruteurs nous disent, ben non, en fait, je préfère que ce joueur soit dans telle autre équipe. Voilà, il y a aussi les clubs pro, des fois, qui vont nous dire, ce joueur, il est milieu, ben moi, je veux le voir latéral. Ou ce joueur, il est attaquant, moi, je veux le voir milieu. Et en fin de compte, voilà, c'est j'allais dire, à la demande des recruteurs, des clubs, parce que des fois, ils veulent voir aussi l'attitude du joueur. Ce n'est pas forcément sur ses qualités, mais c'est aussi l'attitude. Donc ça aussi, c'est hyper important. Et ils veulent voir comment il va évoluer sur un autre poste.
Et un jeune en journée de détection, il peut faire plusieurs matchs. Par exemple, je te dis une bêtise, mais je suis recruteur du club X.
Oui.
Je suis un club professionnel. Et sur le premier match, il y a un... Je sais pas, je te dis une bêtise. Le milieu de terrain devant la défense que j'ai vu, je me dis, ah, il y a des bons trucs, il y a d'autres un peu moins bien. J'aimerais bien le revoir dans la journée quand même. Est-ce que vous êtes en capacité de le faire rejoindre un autre match ou est-ce qu'à ce moment-là, il faut lui dire, bah, prenez-le en essai dans votre club et vous aurez toute la latitude pour évaluer ses qualités techniques, ses prédispositions physiques, mentales, etc.
Généralement, sur les clubs pro, enfin même les clubs amateurs, les recruteurs, sur les 4 équipes qu'on ramène, donc il y a 2-3 matchs, leur choix, il est vite fixé. Sincèrement, il est vite fixé pour aller faire un essai.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc pour aller faire un essai. Donc, voilà, non, ils demandent généralement pas de le revoir. C'est-à-dire sur 2-3 matchs, ça y est, ils sont fixés, ils savent le joueur s'il a les aptitudes, s'il a le niveau ou pas pour venir. Le petit jeune, par exemple, Benjamin qui a signé à Bologne, ben lui sur son premier match, c'est une anecdote. Hein, il a joué avec le short qui tombait. Donc, il tombait un peu ras les fesses. Et il y a un recruteur allemand de Leipzig qui m'a dit, tu vois, lui, c'est un très bon joueur, mais je ne le prendrai pas dans mon équipe. Je lui dis, pourquoi ? Il m'a dit, ben, juste sa nonchalance et son body language, pour moi, je pense qu'il va me créer des problèmes dans le club avec les jeunes. Parce que short qui tombe, voilà, il avait déjà des préjugés. Donc, okay, on lui a parlé à la mi-temps. Et le jeune, en fait, n'était même pas au courant. Il a dit, mais moi, on ne m'a jamais dit ça. Donc, moi, mon short, il tombe. Voilà, c'est ma manière d'être comme ça. Mais je ne savais pas que ça pouvait me porter préjudice. Il a serré son short. Il est reparti à la mi-temps. Il a fait ses 2 matchs. Et 3 clubs italiens l'ont contacté. Il a fait 3 essais. Il a fait Torino, Bologne et la Regina.
Comme quoi, le moindre détail. Mais ça, c'est vrai. Hein. C'est pour ça que là, je parle plus du milieu professionnel pour le coup. Mais c'est pour ça que les recruteurs aiment bien arriver aussi avant l'échauffement sur les matchs quand ils vont en live observer des joueurs. Parce que ça permet de voir aussi beaucoup de choses. Le comportement, comment tu t'entraînes, les relations avec les autres, le sérieux que tu peux mettre dans l'échauffement. Et c'est pour ça qu'ils observent aussi, par exemple, quand un joueur est remplacé, comment il se comporte vis-à-vis du joueur qui le remplace, vis-à-vis de l'entraîneur qui a fait un choix, vis-à-vis éventuellement de supporters qui peuvent le siffler ou l'applaudir. Évidemment, dans la part de recrutement, il y a évidemment... C'est logique, hein, une très grande part qui est allouée à la qualité de l'athlète, du sportif, mais il y a aussi ce qu'on voit un peu moins, ou en tout cas ce que les joueurs pensent qu'on voit moins, mais qui est tout l'aspect body language, comportement, attitude, etc., qui est aussi important. Et je me demandais une autre chose, justement, quand tu disais, généralement, les recruteurs, ils ont un avis assez clair et définitif au bout d'un match. Est-ce qu'un jeune qui n'a pas eu de... touche, entre guillemets, après un premier scouting day, peut se réinscrire pour un deuxième?
Oui, complètement. C'est illimité, il peut s'inscrire, il peut postuler à toutes les opportunités. Et pour venir à ton anecdote, on a une anecdote par rapport à ce que tu disais. Nous, on a un recruteur de l'Atlético Madrid qui est venu, le scouting day commençait à 9h, il arrive à 8h moins quart. Et on lui a dit, mais vous êtes trompé, monsieur, c'est à 9h. Il a dit, mais non, la détection, pour moi, elle commence à 8h moins quart. On lui a dit, comment ça? Il a dit, moi, je veux voir qui arrive en retard, qui arrive à l'heure, qui serre la main, comment il se change dans les vestiaires, comment il se prépare, comment il arrive sur le terrain, comment il s'échauffe, comment il parle à ses collègues. Et effectivement, tu as totalement raison dans ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, les recruteurs, et je pense que maintenant, même dans les clubs amateurs, parce qu'on l'a constaté, voilà, c'est tout ce qu'il y a autour du joueur et ce n'est pas que le savoir-faire, c'est aussi le savoir-être. Ça, ouais. C'est hyper important. C'est vraiment le savoir-être, son comportement et qui est devenu maintenant primordial.
Après, ce n'est pas une vérité absolue, entre guillemets, puisque j'avais déjà raconté dans un épisode précédent cette anecdote. Moi, j'avais regardé un match au Danemark il y a quelques mois parce qu'on m'avait demandé de regarder un joueur en particulier. Et ce joueur, lors d'un match, était ultra nerveux. Il avait moins de 10 matchs professionnels. Hein, donc, c'était vraiment ses débuts. Extrêmement nerveux, beaucoup de fautes un peu bêtes, alors qui peuvent être parfois... juste de l'envie un peu trop présente et qui te font faire un peu de bêtises ou mettre un peu trop d'agressivité ou te jeter un peu bêtement dans les duels, etc. Mais lui, on sentait qu'il n'y avait pas que ça, quoi. On sentait qu'il y avait vraiment une très grande nervosité qu'il avait du mal à canaliser. Et il était passé un peu à côté de son match et il avait été remplacé, je ne me rappelle plus à quelle minute, mais je pense aller dans les 25 dernières minutes, si je me rappelle bien. Et il était au côté opposé au banc. Donc en fait, bah, comme le veut la coutume désormais, hein, tu sors côté opposé, le côté le plus proche pour sortir, pour ne pas perdre trop de temps. Donc il avait tout le, on va dire, un demi-terrain à faire en passant derrière les buts, etc., pour rejoindre le banc. Et en fait, il avait tellement eu du mal à gérer sa frustration que quand il était arrivé vers un poteau de corner, il avait donné un coup de pied dans le poteau de corner. Il avait cassé le poteau de corner. Il a eu de la chance parce que c'est un joueur qui avait été averti dans le match, en début de match. Et en fait, l'arbitre n'a pas vu l'incident, entre guillemets. Il ne lui a donc pas mis de deuxième carton jaune. On l'a juste prévenu au bout d'un moment que le poteau de corner était cassé, qu'il devait stopper le match pour changer le poteau de corner. Et donc, en fait, je me suis dit, mais ce joueur-là, si tu es tellement jeune que pendant le match, tu as fait 50 fautes, que tu pouvais être expulsé parce que tu n'arrivais pas à gérer ta nervosité et que quand tu sors, tu lâches toute ta frustration en cassant un poteau de corner avec une attitude extrêmement négative, etc. Je me suis dit, ce jour-là, s'il y a des clubs qui sont présents dans le stade, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur, en fait, même si tu es jeune, qu'il y a plein de choses que tu peux améliorer, etc. Et finalement, 6 mois après, il partait dans un plus grand club. Donc, ce n'est pas une vérité absolue.
Non.
Mais oui, heureusement d'ailleurs, c'est clair. Ouais. Mais ça peut effectivement jouer sur l'avis que peuvent se faire des recruteurs, que ce soit d'ailleurs au niveau professionnel ou amateur, comme tu l'as rappelé.
Je vous propose désormais d'écouter une petite pastille sonore. J'ai pu échanger avec Benjamin Hidaro, qui a découvert l'application Footsider alors qu'il évoluait au club de Mérignac dans le sud-ouest. Lui qui a connu d'ailleurs le centre de formation des Girondins de Bordeaux sans pouvoir aller jusqu'au bout du processus de formation et qui, à travers une journée de détection organisée par l'application Footsider, a pu décrocher plusieurs essais dans des clubs italiens lorsqu'il s'est fait repérer sur cette fameuse journée de détection. Il a par la suite choisi le club de Bologne, un club italien qui évolue en Serie A. Et aujourd'hui, Benjamin Hidaro évolue avec la Primavera, donc le plus haut niveau des jeunes en Italie, les U19. Et je vous propose d'écouter donc ce que Benjamin a à nous dire sur son expérience autour de l'application Footsider.
Pour être honnête, je ne connaissais pas Footsider avant qu'on me l'annonce. C'est mon coach. Mais en fait, Ryan, il a parlé de cette éventuelle détection de Footsider à Paris, à mon coach. Il avait besoin d'un milieu. Et mon coach, il est venu me voir, il m'a dit, pour une opportunité. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu Footsider. Mais tout simplement, moi, j'étais un peu stressé avant la détection. Mais au fil du temps, ça s'est bien passé. En plus, les joueurs, ils m'ont mis à l'aise, etc. On a fait trois mi-temps de 30 minutes. Et dans le jeu, je me sentais bien, j'apportais à l'équipe. Et ouais, c'était cool, hein, c'était une bonne expérience. Mais en fait, moi, je jouais avec un peu mon pantalon baissé. Je jouais un peu avec mon pantalon baissé. Et Ryan, il est venu me parler, il m'a dit, remonte ton pantalon, il y a certains clubs, tout ça, qui sont intéressés, fortement intéressés par toi, tout ça, etc. Mais qui voient cette nonchalance un peu de toi, etc. Rectifie ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai su que il y avait plusieurs clubs qui s'intéressaient à moi, à la mi-temps. Et on m'a dit que j'avais loupé des grands clubs et tout à cause de ça. Mais à la fin de la détection, il y a des agents, etc., même des agents du Portugal qui sont venus me voir, m'appeler, etc. Ils avaient déjà mon numéro alors que je ne les connaissais pas, je ne les avais pas vus. Dès la fin de la détection, Rien ne m'avait demandé si j'avais un passeport, et si mon passeport il était valide déjà. Je m'étais déjà donné des idées comme quoi ouais, j'avais fait des bonnes choses. J'ai choisi Bologne parce que c'est eux qui me proposaient le meilleur projet. Et en plus, c'était le club où j'ai été le plus performant en réalité. La structure, etc., ça m'a aidé. C'était vraiment cool, ouais, j'ai bien aimé. Ouais. C'est vraiment un tremplin pour moi. Ça a été vraiment un tremplin pour moi, Footsider. Même si je ne connaissais pas, j'ai eu cette chance et je l'ai saisi.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Je réfléchissais en même temps sur les scouting days, parce que là, on est très franco-français, alors sur l'organisation, hein. Je ne parle pas des clubs, parce que vous avez des clubs étrangers qui viennent. La France, c'est un des deux plus gros pays exportateurs de joueurs au monde, avec le Brésil.
Ouais.
Y a une énorme densité. Il n'y a évidemment pas de place pour tout le monde. Donc, les centres de formation qui privilégient un peu l'excellence, parfois la maturité footballistique d'un joueur, d'un jeune, elle peut arriver plus tard. Certains peuvent aussi passer entre les mailles du filet. Hein. Certains ne sont pas conservés et puis ils rejoignent un autre centre de formation et puis ça marche tout de suite. On ne sait pas forcément toujours pourquoi. Mais la France est un pays très exportateur. Il y a le Brésil aussi. Est-ce qu'on peut imaginer de répliquer le modèle Footsider à l'étranger sur des scouting days? Alors, je vais prendre le Brésil parce que c'est un des pays où il y a la plus grosse densité aussi de jeunes joueurs, mais je dis une bêtise, hein, Italie, pays que je connais bien, Angleterre, Espagne, un peu partout en fait, en Afrique aussi. Tu parlais du Maroc tout à l'heure, là où tu as été en centre de formation, ouais. Bah, pourquoi pas au Maroc, en Tunisie, je ne sais pas, au Ghana. On connaît l'Académie Right to Dream, qui n'est plus une simple académie d'ailleurs aujourd'hui, mais qui a démarré au Ghana. Au Nigeria, il y a beaucoup de talents. Au Japon, c'est un vrai pays de foot. Est-ce que vous imaginez répliquer à l'avenir ce modèle à l'international?
Oui. Alors, nous, dans le développement de l'application, on a un rétro-planning. Donc, 2023-2024, c'est vraiment de développer l'application en France et vraiment de consolider le marché français. Par contre, tout de suite après, on va justement se développer en Europe et on attaque par l'Allemagne et ensuite, justement, on redescend sur l'Espagne, l'Italie et tout le reste de l'Europe. Et bien sûr, Ronaldinho, Yassine Brahimi, c'était une condition pour eux, c'est de développer par la suite en Afrique et en Amérique du Sud. Donc okay. Ça, c'est, j'allais dire, limite, c'est une obligation pour nous de le faire. Mais voilà, on apprend, ça fait que 8 mois qu'on existe. Donc d'abord développer en France, l'Europe. On va bien sûr normalement être pour la Coupe du Monde 2026 aussi aux États-Unis. Donc mm-hmm. Ça, c'est un événement à pas rater et à surfer justement sur 2026 aux États-Unis. Mais effectivement, l'Afrique et l'Amérique du Sud, c'est vraiment une priorité pour nous de développer justement et de contribuer au développement du football. Donc nous, on n'est pas agent, on ne prend aucune commission, Footsider, mais l'objectif, c'est justement d'aider les joueurs à trouver rapidement des clubs. Donc en fait, on est facilitateur tant pour le joueur que pour le club.
Alors certains pourraient demander quel est le modèle économique alors de l'app?
Alors le modèle économique, il est simple. Alors pour les clubs, tout est gratuit et ça le restera.
Ok.
Donc les clubs, quand ils s'inscrivent, c'est gratuit et ça reste totalement gratuit pour eux. Par contre, pour le joueur, il peut créer son profil gratuitement, il peut consulter les offres gratuitement, il peut postuler à une offre gratuitement. Ce qu'on a mis de payant, donc l'abonnement ProStar, donc le premium, c'est juste à terme lorsqu'il va pouvoir postuler de manière illimitée dans les clubs par rapport à du vidéo contenu qu'on va mettre justement qui sera payant. Voilà, c'est okay. les deux points. Par contre, pour participer au Scouting Day, au pré-sélection, il y a aucun problème, c'est totalement gratuit.
Est-ce que vous recueillez des impressions, des avis auprès des clubs sur l'application, justement, sur les journées de détection, ce qui peut être, ce qui est bien fait, évidemment, ce qui peut être amélioré, à la fois sur le côté digital, donc l'app, parce que finalement, ça s'est vachement démocratisé, le digital, sur tous les aspects du scouting, de la data, de la vidéo, il y a, alors je peux dire qu'il y en a beaucoup, mais il y a quand même pas mal d'acteurs qui existent au niveau professionnel. Est-ce qu'ils vous font des retours? Et aussi sur les scouting days, ça m'intéresse de savoir, je sais pas, un recruteur qui peut dire, on pourrait aussi imaginer faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça.
Alors, sur les clubs amateurs, on est vraiment, vraiment, vraiment facilitateur pour eux. Je vais prendre deux exemples. On a des clubs qui sont dans des régions, j'allais dire isolées, dans des régions rurales, qui nous ont dit bah, le fait que j'ai pu poster une opportunité, bah, j'ai eu 100 candidatures, ce que je n'aurais jamais pu avoir tout seul comme ça en mettant sur mes réseaux, parce que j'ai personne sur mes réseaux. On a un club aussi qui a eu 450 offres. Donc pareil, il nous a dit, mais moi, jamais j'aurais pu. Donc effectivement, sur les clubs amateurs, on les aide vraiment, on leur facilite la chose en leur ramenant beaucoup de profils, justement, grâce à l'application, et c'est de manière instantanée. Pour les clubs professionnels, bah, le retour qu'on a eu, il est très simple, c'est que les clubs nous ont dit, bah, quand on vient chez vous, sur une journée, on voit 100 joueurs. Si nous, on doit le faire avec nos scouts, on va aller un week-end pour voir un joueur. L'autre week-end, on va essayer de voir 2-3 joueurs sur un dimanche. Donc déjà, on ne voit pas tout le match parce qu'on voit 20 minutes de lui, on prend la voiture, on va sur un autre match, etc., etc. Donc il nous a dit, pour voir 100 joueurs, il nous faut peut-être un an pour superviser 100 joueurs avec peut-être 10 scouts. Alors que là, sur une journée, on voit entre guillemets 100 joueurs avec un niveau très intéressant.
Il y a un autre aspect qui m'intéresse parce qu'il y a la mise en relation qui est évidente, il y a l'organisation qui est évidente, et tu parlais tout à l'heure des joueurs qui ont obtenu des essais, au-delà même de ceux qui ont déjà signé un contrat pro, mais au moins obtenir des essais dans des clubs pro. Pour des jeunes qui ont été en centre de formation, certains, il y a des codes qu'ils retrouvent quand ils font un essai. Pour ceux qui n'ont jamais été en centre de formation professionnelle, c'est un monde un petit peu nouveau. Est-ce que vos fondateurs, Ronaldinho ou Brahimi, s'impliquent auprès des jeunes qui vont aller effectuer des essais? Tu me dis, il y en avait une dizaine, je crois, qu'on fait un essai lors du dernier Scouting Day. Là. Est-ce qu'ils se sont impliqués auprès de ces 9 joueurs pour leur dire, voilà ce qu'il faut faire de bien? Alors, ça ne veut pas dire que c'est une garantie et qu'il faut tout prendre à la lettre, hein, mais au moins donner quelques conseils sur un club professionnel s'attend à voir ça. Sur l'attitude, il faut être comme ci, comme ci, comme ci, comme ci. Sur des petits détails, il faut faire attention. Tu parlais du short, ce genre de choses-là. Est-ce que, comment accompagner? Voilà, c'est plutôt ça la question, c'est comment accompagner ceux qui vont faire des essais dans les clubs pro?
Alors, sur les essais de clubs pro, il y a des joueurs qui ont été en centre de formation et effectivement, il y a des joueurs qui viennent du milieu amateur.
J'en ai vu un, je crois, de mémoire, hein, dans une coupure presse, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était Nice matin ou Var matin, je ne sais plus.
Ryan.
Ouais, qui était un jeune qui allait à la Fiorentina, c'est ça, faire un essai, je crois.
Voilà, exactement. Donc, par exemple, Ryan, lui, qui vient du milieu amateur, qui a eu un essai à la Fiorentina, et même ses parents étaient, j'allais dire, peut-être même limite plus stressés que lui, ce qui est normal, parce que c'était un gros enjeu. Et dans ce cas-là, donc, Yacine lui avait fait une petite vidéo pour l'encourager. Ronaldinho avait fait la même chose avec un autre joueur pour un essai au Portugal. Okay. Donc, il avait parlé en portugais. Mais très simplement, nous, ce qu'on leur dit, parce qu'on ne peut pas faire des vidéos comme ça à tout le monde, et là, voilà, on avait l'opportunité, on était avec Yacine Rooney, donc on a pu le faire. Mais effectivement, ce qu'on préconise aux joueurs, bah déjà, c'est que ça va être très dur, qu'il va arriver, qu'il va y avoir beaucoup de concurrents, entre guillemets, parce que nous, quand ils nous invitent, quand ils invitent un joueur, ils invitent 2-3 autres joueurs.
Bien sûr.
Ils mettent tout le monde en concurrence. On leur explique aussi d'apprendre 10, 15 mots, 15 phrases, par exemple pour Ryan en italien. Bonjour, je m'appelle Ryan. Il y a aussi... ça vient, voilà, c'est les mots, j'allais dire, classiques.
Ouais, les mots clés sur le terrain, voilà, quoi. Attention derrière, t'es libre. Voilà.
Exactement, donne-moi la balle, faut te retourner, etc. et tout. Donc ça, pour nous, c'est la base. Et après, effectivement, et ça, c'est ce qu'on doit travailler avec eux. C'est pour ça qu'on a les vidéos tuto. C'est tout ce qui est préparation mentale qui, pour nous, est importante parce qu'effectivement, le joueur, quand il arrive là-bas, ben, il n'a pas ses repères, la nourriture. Le stress d'être dans un club, entre guillemets, dans un grand club. Il y a juste eu pour Benjamin, donc, qui est parti à Bologne, qui, lui, franchement, n'avait aucun stress. Je pense qu'il était prêt mentalement. Okay. Il était vraiment prêt mentalement. Moi, j'ai envoyé un SMS d'encouragement quand il est parti et il m'a répondu, il m'a dit « Sache que je ne reviendrai plus ». Donc, ça voulait tout dire, c'est qu'il était vraiment déterminé dans sa tête. Et effectivement, il a fait ses 3 essais, Torino, Regina, Bologne, et il a choisi Bologne.
Quelle relation vous avez avec les parents? Alors, aussi bien au niveau amateur que pro, hein, enfin, quand les jeunes vont en essai en pro ou en essai amateur, quelle relation vous avez avec les parents? Parce que, alors quand c'est en pro, il y a des enjeux derrière, clairement. C'est pas toujours très sain et c'est pas toujours de la faute de la famille, ce qu'il faut toujours expliquer. Hein. C'est aussi un système qui est fait comme ça. système sociétal hein, et système footballistique d'ailleurs. Et au niveau amateur, il y a peut-être moins d'enjeux d'argent, mais il peut y avoir quand même des enjeux importants au niveau perso. Comment vous gérez ça avec les parents, si vous le gérez? J'allais dire au quotidien, peut-être pas, mais ponctuellement, ça peut être sur des journées de détection où ils peuvent être présents ou...
Alors, sur les joueurs, généralement, quand ils sont majeurs, on n'a pas forcément de relation avec les parents.
Okay.
Bien sûr, il y a quelques joueurs qui sont toujours accompagnés par leurs parents. On échange avec eux. Et ça, c'est justement le rôle de Samy et de Guillaume qui échangent avec les parents, surtout d'un point de vue projet. Voilà, l'objectif, que ce soit le club amateur ou le club professionnel, si les parents viennent, on vient échanger avec les parents, c'est de leur expliquer le projet. Quel est le projet pour votre fils? Sur un club amateur, s'il doit même changer de ville, c'est quoi le projet? Ah, le club va lui trouver aussi du travail. Ah, en partant à tel club, dans telle ville, il y a l'université. Donc voilà, tout ça, on essaye de les accompagner sur cette partie-là. Pour les joueurs professionnels, pareil, on essaye de les conseiller, mais après, effectivement, notre rôle s'arrête au moment où... alors, on les conseille sur la préparation, j'allais dire, du fiston quand il arrive au club. Mais après, effectivement, comme on n'est pas agent, on n'est pas intermédiaire, on leur explique que voilà, s'ils doivent parler à des agents, ça serait bien d'en avoir deux, trois pour justement échanger et après faire le meilleur choix pour le fiston. Mais on leur dit toujours, même si vous voyez un agent, pensez projet. Ne pensez pas juste à aujourd'hui, la signature. Quel est le projet pour le fiston et est-ce que l'agent ou le conseiller voilà, est en adéquation avec ce projet-là?
Il y a un jeune qui a signé, donc on l'a dit, au PFC, Benjamin, donc à Bologne. On a parlé de Ryan hein, et de son essai à la Fiorentina. Est-ce que vous avez un... Alors, je ne vais pas dire d'objectif, mais en tout cas, est-ce que vous avez une idée sur l'évolution du nombre de jeunes qui pourraient effectuer des essais dans les clubs professionnels? Là, on va se concentrer sur le volet professionnel.
Oui.
Selon tout ce que vous avez vu déjà et l'expérience que vous avez emmagasinée sur les différentes journées de détection et les retours des clubs, est-ce que ça vous donne une idée plus précise de combien de j'allais dire de gamins, c'est pas forcément des gamins, de jeunes joueurs peuvent être redirigés vers des clubs pro?
Sur les clubs pro, pour moi, pour ma part, il y a plusieurs visions. Parce que la vision du club espagnol, du recruteur du club espagnol, est différente que celle du club français, qui est différente de celle du club italien. Moi, j'oublierai jamais, voilà, les recruteurs espagnols, eux, par exemple, quand ils arrivent, ils disent, moi, je veux voir comment le joueur évolue 10 secondes avant qu'il ait la balle et 10 secondes après qu'il ait la balle. Moi, c'est ça que je regarde. C'est ce que dit le recruteur espagnol, généralement. Mm-hmm. Dis-moi, je veux voir comment il se comporte. Enfin, les recruteurs italiens, ils vont chercher quelqu'un qui va être peut-être plus prêt physiquement. Et eux, ils vont dire, nous, on va lui travailler la tactique. Donc, s'il est prêt physiquement, techniquement, on sait que, par exemple, nous, aujourd'hui, on a plus... Alors, sur nos deux scouting days hein, qu'on a fait, on a plus eu des clubs italiens intéressés. Il y a eu des clubs espagnols, il y a eu des clubs français, il y a eu des clubs allemands, mais j'allais dire, allez, 50% sur ces quatre pays, 50% c'est les clubs italiens. Donc,
mais c'est je me permets de te couper, mais c'est vu que je travaille sur l'Italie, et en fait, ils sont à la recherche de profils qu'ils n'arrivent pas à former chez eux. Souvent, ils regardent la France avec des yeux d'amour, parce qu'ils disent, vous avez une typologie très large de joueurs que vous êtes en capacité de former. Nous, en Italie, on n'a pas cette étendue de profil. Et ils disent autre chose. Ils disent, nous, ce qu'on aime dans la formation française, c'est que vous formez des potentiels grands joueurs avec beaucoup de qualités technico-physiques, tandis que nous, on forme des grands professionnels. Alors, la vision est un peu en train d'évoluer parce qu'au fur et à mesure, l'Italie rattrape aussi un petit peu son retard, hein, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais voilà, ils disent, nous, on sait que les jeunes qu'on forme chez nous, donc en Italie, on aura, j'exagère un peu, mais quasiment zéro problème de comportement sur le professionnalisme, sur la ponctualité, parce qu'on les a matraqués avec ça. Ouais. Par contre, sur les profils créatifs, physiques, on aura peut-être un déficit qu'on va essayer d'aller chercher ailleurs. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de joueurs de Ligue 1 aussi, de Ligue 1, français ou pas français d'ailleurs, avec une ou deux nationalités sportives, qui viennent en Serie A, parce que c'est des profils totalement différents. Enfin, je veux dire, quand vous prenez un Zambo Anguissa au milieu du Napoli, c'est très différent de ce que faisait un Lobotka, c'est très différent d'un, si je continue dans le championnat italien, d'un Tonali qui a été formé en Italie, d'un Barella qui a été formé en Italie, d'un Lorenzo Pellegrini qui a été formé en Italie, c'est vraiment autre chose. Et on voit aussi que ces profils-là matchent très bien avec la Serie A parce que justement ils sont peu nombreux et qu'ils font tout de suite des différences. Donc je ne suis pas surpris par ce que tu viens de me dire qui est les clubs italiens sont très intéressés par votre projet.
Eh ben ouais, ben tu vois, en fait, on se rejoint. On se rejoint sur ton analyse. Et comme tu dis, il n'y a pas de hasard. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est les Italiens, c'est qu'ils ne voient pas le CV du joueur. Alors que d'autres pays, ils disent, ah oui, il a joué où? Il joue où? Ça les rassure ou pas? Mmh. Eux, non. Eux, ils ne regardent même pas. C'est-à-dire, si le joueur l'intéresse, il peut être en district, ils vont vouloir aller le voir en essai. Peu importe, vraiment. Et ça, pour moi, c'est intéressant aussi parce qu'ils ne jugent pas sur le CV, entre guillemets. Ils n'ont pas à être rassurés. Alors qu'il y en a d'autres, ils vont dire, ah oui, il a joué là. Ah, mais il a joué. Ah, mais il est sort de centre de formation. Ah ouais, c'est pas mal.
Je t'ai coupé juste sur, oui. Sur l'explication que tu voulais me donner sur la vision et sur l'approche, l'évaluation que vous avez fait, vous pourrez faire sur le nombre de joueurs qui seront en capacité de rejoindre des clubs pro. Ou en tout cas de décrocher un essai avant même de parler de rejoindre, hein, de décrocher un essai.
Alors, bien sûr, tout va dépendre du jour du scouting day. Si on a beaucoup de joueurs qui sortent de centre de formation, je pense qu'effectivement, ils ont plus de chances que quelqu'un qui vient du milieu amateur. Même si, on va dire que allez, c'est peut-être du 60-40, parce que quand on ramène des joueurs amateurs, on ramène des très bons joueurs amateurs, parce qu'on fait des présélections en amont. Donc forcément, on ramène des très, très bons joueurs. Mais après, sur les statistiques, je pense qu'on est un peu au-dessus de ce qui se fait en France au niveau du nombre de joueurs qui deviennent pros en sortant d'un centre de formation. Pourquoi? Parce qu'on a effectivement cet éventail de pays, de choix. Donc, sur 100 joueurs qui vont rentrer en centre de formation en France, je veux dire, 95 vont échouer. Nous, c'est un peu moins. Il y en a un peu plus qui réussissent. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas qu'en France. On a la France, on a l'Italie, on a l'Espagne, on a le Portugal, on a l'Allemagne. Donc, forcément, on leur ouvre, j'allais dire, un spectre un peu plus élargi.
Est-ce que, pour augmenter aussi ce taux de réussite, il y a faire encore plus de détection, encore plus de scouting day, avoir encore plus de clubs aussi? Parce que là, tu m'as cité quelques pays. Moi, ce que je vois tout de suite, c'est pourquoi un club néerlandais ne serait pas intéressé par ce projet-là, un club belge aussi. On peut même aller chercher, je ne sais pas, un club danois, un club polonais, peu importe quoi.
On aimerait bien, on n'a pas encore le réseau. Ouais. On n'a pas encore le réseau d'aller les chercher. Après, pour les clubs pro, c'est des périodes. Généralement, dans les centres de formation, à partir de janvier-février, ils savent déjà plus ou moins quel joueur il va leur falloir pour le mois de mai-juin. Donc, généralement, c'est cette période-là. Si on fait c'est pour ça qu'on ne peut pas en faire beaucoup, en fait. On peut inviter beaucoup de recruteurs, beaucoup de clubs, mais généralement, c'est en janvier-février. Parce que si on l'a fait en mai-juin, ils ont déjà
fait leur choix.
Voilà, ouais. C'est trop tard, exactement.
Et après, un axe aussi, ça peut être ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, c'est le développement à l'international.
Oui.
Et donc, arriver sur d'autres territoires. Et donc, quand vous allez organiser, j'imagine, une journée détection, je dis une bêtise, hein, à Sao Paulo, il y a des recruteurs de pas mal de clubs européens aussi, et peut-être qui aujourd'hui ne viennent pas, qui seront susceptibles de venir. Parce qu'on le répète, même si les choses évoluent, mais l'image du footballeur brésilien, dribbleur, fantasque, profil qu'on ne trouve pas partout, attire encore aujourd'hui beaucoup de clubs. Il y a évidemment sur la densité aussi au Brésil, il y a des joueurs qui ne réussissent pas en centre de formation. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne peuvent pas réussir ailleurs. Et donc, c'est effectivement une des raisons que je vois pour envoyer encore plus de jeunes dans les clubs pro, c'est quand vous arriverez à faire, je pense, plus de détection dans plus de pays. Sur la quantité, j'imagine qu'il y a pas mal de clubs qui vont être intéressés par des profils totalement différents et être amenés avec des cultures différentes, des styles de football différents, des approches différentes, à intéresser aussi des clubs qui aujourd'hui ne viennent pas encore vous voir. Ce qui en soi, finalement, ça leur coûte quand même pas grand-chose, si ce n'est d'envoyer un scout sur un, deux jours pour visualiser des jeunes. La prise de risque est quand même... Exactement. Pas très importante, hein, il faut dire, pour les clubs.
Et exactement. Et de toute façon, sur les deux scouting days qu'on a fait, on a déjà des clubs, vu qu'ils nous ont félicités et encouragés sur le travail qu'on a fait. Ils nous ont dit, mais si vous le faites dans d'autres pays, on viendra, notamment en Afrique, en Amérique du Sud. Et on est parti, on avait fait une détection, nous, à l'époque, avec l'Académie Seconde Chance au Brésil. Et on a rencontré des gens à Rio et à Sao Paulo, et on avait rencontré des recruteurs de Santos. Ils nous ont dit quelque chose de très simple. Ils nous ont dit, mais si vous venez ici, vous allez cartonner. Et on lui dit, pourquoi? Il a dit, déjà, nous, on est 220 millions d'habitants. Il dit, et quand on fait une détection, on ramène 1000 joueurs, nous, il nous en faut 20. Mais sur les 1000, il y en a 200 qui sont aussi bons que les 20. Mais on ne peut pas les prendre. Il dit donc ils sont perdus, ils repartent dans leur favela, ils repartent dans leur club et ils reviennent à une autre détection, mais vu qu'on n'en prend que un peu par rapport à tout le nombre qu'il y a, bah, ils se perdent en fait.
Je voulais te poser une question sur... Ouais. Je rencontre pas mal de gens du foot, plutôt axés, on va dire, dirigeants, scouts aussi, ou même agents d'ailleurs, qui estiment que l'avenir du football se trouve en Afrique. Il y a un exemple très important, et l'épisode avec Laurent Colette, que vous pouvez retrouver sur le podcast, est un exemple avec cette fameuse académie Right to Dream. Enfin, je dis académie, maintenant, il faut parler de groupe ou d'entité.
Ouais.
Mais avec leur académie au Ghana, en tout cas, quand on voit aussi la profondeur qu'a le Nigeria en ce moment, qui est, je crois, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. J'espère ne pas dire une bêtise, je vais vérifier une fois que je l'aurai dit.
En tout cas, c'est un des pays les plus peuplés d'Afrique.
Voilà, c'est ça. Quand on voit leur profondeur sur les lignes d'attaque, c'est colossal. Je veux dire, il y a très peu de pays, même européens, qui ont une telle densité de joueurs, de grands talents et des jeunes joueurs en plus, hein, parce que tout le monde parle d'Osimhen, mais il y en a beaucoup d'autres qui poussent derrière. Est-ce que toi aussi, tu estimes, alors là on a parlé de l'Afrique centrale, on va dire, sur l'Afrique du Nord, on voit moins de choses actuellement, je trouve, moins de jeunes qui émergent. Quel regard tu portes sur le continent africain comme avenir du football mondial? Il y a une vraie question sur la densité, déjà l'amour du continent de manière générale, hein, pour le football, et ensuite sur la densité de jeunes joueurs qui peuvent émerger de ces pays-là.
Je te rejoins parce que de toute façon, en Afrique, c'est le sport national et ils n'ont que ça, entre guillemets. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de jeunes jouent au foot. Yacine Brahimi, donc voilà, comme on avait dit, c'est une de ses conditions de développer rapidement en Afrique pour deux points. Autant pour sortir les jeunes pépites et les aider, mais aussi pour combattre les faux intermédiaires et les faux agents. Donc, ça aussi, c'est un point très, très, très important. Je vais peut-être utiliser un mot fort, mais c'est peut-être un peu l'esclavage moderne de dire « Ah oui, tu me donnes 10 000 dollars, je vais envoyer ton fils en Italie, en Espagne, en Allemagne. » Il y va, le pauvre, et il se retrouve dans un camp de réfugiés. Il n'a même pas de club, il n'a rien. Donc ça, effectivement, avec Footsider, on veut vraiment contribuer au développement, j'allais dire, du football africain et combattre un peu ces mauvais intermédiaires, ces faux intermédiaires. Mais pour la densité, je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'on a aussi, on travaille avec des collaborateurs qui sont dans pas mal de pays, au Congo, Kinshasa, pareil, il nous dit, mais il y a une densité énorme. Nigeria, Ghana, on n'en parle même pas, eux, ça fait depuis des décennies. Et pour revenir au Maghreb, bon, il y a le Maroc qui travaille très bien depuis ces dernières années avec l'Académie Mohamed VI,
oui,
où ils vont tout de suite aller piocher, justement, identifier les jeunes dans les quartiers. Ils font beaucoup de détections dans les quartiers, voilà, dans différentes villes pour aller identifier les bons profils. Mais effectivement, le Maghreb et même l'Afrique en général, moi, personnellement, je reste persuadé qu'il y a, de toute façon, on le voit, des très, très grands joueurs viennent, il y en a beaucoup qui viennent d'Afrique. Alors, peut-être, il manque aussi en Afrique, peut-être beaucoup de formation.
De structure, ouais.
Voilà, moi, j'étais allé au Maroc un jour avec un recruteur de club pro. Il m'a dit, tu vois, que ce soit dans la rue ou parce qu'on a fait la tournée de club pro, il m'a dit, avant 12 ans, vous êtes beaucoup plus fort que les joueurs européens. Il m'a dit, mais vraiment. Il m'a dit, techniquement, la vivacité, voilà. Tout le jeu, il m'a dit, mais après 12 ans, on vous perd parce que vous n'avez pas de formation. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, comme tu disais, quand il y a des académies qui arrivent, qui s'implantent en Afrique, qui travaillent bien, qui bossent bien, bah forcément, ils ont le vivier. Donc, ils vont en sortir du talent. Ils vont en sortir des joueurs.
Et petite précision, le Nigeria est bien le pays le plus peuplé d'Afrique. Heureusement, heureusement pour moi, avec plus de 200 millions d'habitants d'ailleurs.
Voilà, c'est fou.
Donc, et puis pour reprendre la liste de la sélection, il y a quand même des joueurs offensivement, Osimhen, Chukwueze qui est aujourd'hui à Milan, Iheanacho qui est à Leicester, Moses Simon qui est à Nantes, Lookman qui est à l'Atalanta, Gift Orban qui est une des grosses promesses du football mondial, vous avez Terem Moffi qui est à Nice, vous en avez d'autres qui sont en première ligue encore, Cyril Dessers qui est aux Rangers, enfin, il y a vraiment une très très grosse densité de joueurs au Nigeria, mais dans d'autres pays aussi d'ailleurs.
Ouais, des vrais attaquants.
On arrive au bout de l'entretien, Ryan, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines? Est-ce que tu as un nom, ou deux, pourquoi pas d'ailleurs, à me soumettre en recommandation d'invité?
Alors oui, il y a une personne, je pense, qui peut être très intéressante, et ça fait un peu lien par rapport à ce qu'on disait avec Footsider pour les jeunes. On parlait que quand il partait en Europe, quand il partait dans des clubs, pardon, il manquait peut-être de prépa mentale. Donc moi, si j'ai quelqu'un à recommander, j'aimerais bien entendre. C'est vraiment Amaury Delerue, qui est arbitre de Ligue 1, que je connais, hein, que je connais. Donc, mais effectivement, j'aimerais bien creuser avec lui un peu cette partie-là de prépa mentale. Il s'est reconverti justement sur de la prépa mentale depuis qu'il n'est plus arbitre de Ligue 1. Il est entraîneur d'équipe universitaire féminine de Bordeaux. Et avec le peu de moyens qu'il a et les joueuses qu'il a, il vient d'être encore deux pour la seconde fois champion d'Europe universitaire. Donc, je pense que la prépa mentale y est pour quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose en secret que Amaury doit faire pour faire ça. Là, je sais qu'il a la Coupe du Monde universitaire en Chine en octobre-novembre. Et voilà, j'aimerais bien l'écouter, l'écouter sur, voilà, sur cette partie-là de prépa mentale.
Est-ce que tu en as un deuxième au cas où ?
Un deuxième, bah, il peut y avoir Yacine Bragno, Ronaldinho, peut-être, s'ils sont dispo. Je pense qu'avec plaisir, ils pourront venir échanger avec toi. Il faut juste qu'ils soient disponibles. Mais avec grand plaisir, je pense qu'ils pourraient échanger avec toi.
Eh bien, écoute, ça me fait des belles invitations à lancer. Je te remercie, Ryan Mouy, pour ta disponibilité, pour ton temps. Je rappelle donc l'application Footsider. Alors, je précise tout de suite, hein, il n'y a pas de rémunération. Je le fais bien volontiers. Donc, vous le savez, hein, dans mes podcasts, il n'y a pas d'échange commercial, de publicité, ce genre de choses-là. J'invite qui j'ai envie d'inviter. Donc ça, c'est une vraie liberté de pouvoir le faire. Et j'étais assez séduit par l'application Footsider. Et surtout sur le côté un peu... en France, on a une telle... densité de jeunes qui repartent des centres de formation sans contrat et qui, pour beaucoup, hein, ont beaucoup de qualités de footballeurs, que réussir à leur offrir une alternative pour éventuellement croire à nouveau à cette possibilité, à ce rêve, appelons-le comme on veut, de devenir footballeur. Dans un premier temps, si c'est amateur, bah c'est amateur, mais il y a des amateurs qui deviennent professionnels à tout âge, d'ailleurs.
Ouais.
Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, donc bravo pour ça. Je vais suivre évidemment l'évolution. Le développement international m'intéresse beaucoup, donc bonne continuation à vous et puis à très vite.
Merci beaucoup, Johan.
Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.